Chapitre 24. Jean le Brave avait quitté Concini sans méfiance aucune. Il avait très bien remarqué que le favori le suivait d'assez près. Mais pas un instant la pensée ne lui vint qu'il pouvait méditer quelque lâche trahison. Il avait pensé qu'il se hâtait d'aller délivrer ses serviteurs. Lorsqu'il sentit le plancher manquer sous ses pieds, il étendit instinctivement les bras et la surprise lui arracha un cri. Il tomba rudement, sans se faire de mal du reste. Une seconde, il demeura étourdi, et, se redressant d'un bond, il rugit. « Oh, vigliacco, ti mangiero il fegato, ti mangiero le tripe! Scendi qui, vigliacco !» Jean le Brave, élevé par le Florentin Saetta, parlait l'italien aussi couramment que le français. Et comme, avec Concini, qui était florentin lui aussi, il employait plus souvent l'italien que le français, cette langue lui était venue naturellement à la bouche. Il se rendit vite compte que l'écho seul lui renvoyait ses menaces et ses imprécations. Il se tut. Il était plongé dans l'obscurité la plus complète. Dans sa chute, la cassette qu'il tenait sous le bras lui avait échappé. Ce fut de cela qu'il s'inquiéta tout d'abord. À tâtons, il se mit à chercher et trouva assez facilement. Elle s'était ouverte. Les papiers avaient glissé en tas à côté, les clés aussi. Il remit le tout en place et, de crainte que quelques feuillets n'eût roulé plus loin, il continua ses recherches. Mais il ne trouva plus rien. Tranquille sur ce point, il plia son manteau, le posa à terre contre le mur et mit la cassette dessus. Alors il songea à lui-même et s'occupa de savoir où il était. Il constata d'abord l'absence complète de meubles. Pas le moindre siège, même pas une botte de paille sur quoi il pût s'étendre. Il chercha les accessoires obligés de tout cachot, la cruche d'eau, la miche de pain. Il n'y avait rien. Rien que les quatre murs sur lesquels suintait l'humidité produite par le voisinage de la Seine. Il mesura le cachot et compta 5 petits pas dans le sens de la longueur, 4 dans le sens de la largeur. C'était plutôt petit. Et pas la plus mince ouverture susceptible d'apporter un peu de lumière dans cette sorte de tombe. Le noir compact à couper au couteau. Un air lourd, une odeur de moisi qui raclait la gorge. Une porte. Il s'attarda longuement à l'étudier. Épaisse, trapue, cuirassée de fer, hérissée de gros clous. Pas de serrure. Sans doute les solides verrous qui, extérieurement, la maintenaient hermétiquement close, avaient été jugés suffisants. Il eut un petit sifflement d'admiration qu'il ponctua par ces mots. « Ouvrage bien conditionné !» N'importe. Il se colleta avec, du pied, du poing, des épaules. Il s'épuisa, se meurtrit sans réussir à l'ébranler. Il essaya de la violenter avec sa dague. La lame se cassa avec un bruit sec. Dommage, elle lui avait bien coûté 2 bonnes pistoles. Il l'abandonna momentanément. Toute la nuit, il avait été sur pied et les émotions et les aventures ne lui avaient pas manqué. Il était fatigué et il commençait à avoir faim et soif. Il s'assit sur son manteau. Il était extraordinairement calme et il s'en étonnait lui-même. Il ne se sentait plus le même et il s'en effarait naïvement. Il se disait que 24 heures plus tôt, il n'aurait pas supporté sa mésaventure avec le même sang-froid. La fureur l'aurait transporté. Il aurait hurlé, martelé la porte à coups furieux. Il n'aurait pas tenu en place. Et d'un air rêveur, il murmura « En aurais-je été plus avancé ?»« Non, certes. » Mais comme on change tout de même, et si vite! Il ne se rendait pas compte qu'il subissait l'influence du comptable de Pardaillan, son père, avec qui il avait passé presque toute la nuit. Et il était encore sous le coup de la scène à la fois douce et terrible qu'il avait eue quelques heures plus tôt avec celle qu'il était autorisé à considérer comme sa fiancée. Doué d'une faculté d'assimilation prodigieuse, il essayait, à son insu, de faire sienne quelques-unes des qualités de son père qu'il avait vivement frappées et dont il avait peut-être l'embryon en lui. Le calme extraordinaire de Pardaillan, cet imperturbable sang-froid qui ne l'abandonnait jamais, la simplicité de ses manières, la sobriété de ses gestes, la logique serrée de son raisonnement qui lui permettait de n'accomplir que les actes essentiels, par conséquent utiles, Voilà ce qui l'a le plus frappé, voilà ce qui l'a le plus admiré. Voilà quelles sont les qualités qu'il a enviées, qu'il a résolu d'adopter et qu'il est en train d'assimiler sans s'en rendre compte. D'autre part, à la suite de l'entretien qu'il avait eu le matin même avec Bertille, il avait eu l'intuition que, s'il voulait se montrer digne d'elle, l'ancien homme qu'il avait été jusque-là devait faire place à un nouvel homme qui serait à peu près l'opposé de ce qu'avait été l'ancien. Ce qui n'avait été qu'une intuition s'était précisé davantage et il en était résulté qu'il avait fait grâce à Concini, ce qu'il n'eût certes pas fait la veille. Maintenant, il comprenait ce qu'il n'avait que senti d'abord. Bientôt, il le raisonnerait. Cette faculté d'assimilation, jointe à une inébranlable volonté de changer ses manières et son genre d'existence, portait déjà leurs fruits. Il s'en étonnait parce que sa résolution très ferme avait été prise sans qu'il en eût nettement conscience. Il convient d'ajouter que cette tranquillité d'esprit, qui ressemblait presque à de l'indifférence et qui pouvait à bon droit l'étonner en une circonstance aussi critique, avait une autre cause insoupçonnée de lui. Depuis l'instant où Bertille lui était apparu sur son perron, jusqu'au moment où il l'avait quitté chez le duc d'Andilly, il vivait transporté au-delà de la réalité. L'amour de Bertille lui était apparu comme une insaisissable chimère, comme un bonheur irréalisable auquel il n'atteindrait jamais. Et pourtant, la jeune fille avait fait mieux que d'avouer son amour, elle l'avait hautement proclamé. D'elle-même, spontanément, volontairement, elle s'était fiancée à lui. Un tel bonheur, fabuleux, inouï, pouvait-il être renversé, brisé dès sa naissance, de par le geste louche de Concini ? Allons donc ! Cet amour lui apparaissait comme un palladium qui le faisait invincible. Si désespéré que lui parut sa situation, il était clair, évident, fatal qu'il devait s'en tirer. Don Jehan, assis au milieu de son cachot, ayant gardé tout son sang-froid, se mit à réfléchir. Que va faire de moi Concini ? Va-t-il me dépêcher quelque brave, chargé de m'oxyre à la douce ? Non, il sait que je suis armé et que je ne suis pas d'humeur à me laisser égorger bénévolement, tel un mouton à l'abattoir. Et puis, je le connais un peu, le Concini. Il voudra une vengeance raffinée, terrible. Un coup de dague ? Peu. Qu'est-ce que cela ? Est-ce suffisant pour effacer le soufflet que cette main a appliqué sur sa face de pleutre ? Non, il voudra quelque chose de bien tortueux, sombre, hideux. Il se mit à rire silencieusement du bout des lèvres. Il reprit. Il est probable qu'il va me laisser crever ici de faim et de soif. Ceci est un genre de mort assez hideux pour le tenter. Mais voilà, j'ai mon épée et ce mignon petit poignard avec lequel elle a tenté de se défendre. Je reste donc maître de mon sort. À la dernière extrémité, je pourrai toujours en finir d'un coup de poignard. La mâchoire posée dans la paume de la main, le coude appuyé sur les genoux ramené contre la poitrine, le sourcil froncé, il demeura un moment l'esprit tendu. Et il traduisit sa pensée par ces mots murmurés. Concini voudra jouir de son triomphe. Il ne pourra pas résister au plaisir de venir m'insulter un peu. Ou je le connais bien mal. Il eut un sourire railleur. Il viendra, j'en jurerai. Alors je le tiens. Il faudra bien qu'il m'ouvre lui-même cette porte. Il eut un frisson et s'inquiéta. Mais si je ne réussis pas à l'effrayer, je suis perdu. Il réfléchit encore un peu et... Bah, il est lâche. Il aura peur, c'est certain. L'essentiel est qu'il ne me fasse pas trop attendre. En attendant, je meurs de faim, j'étrangle de soif, mais il ne faut pas songer à satisfaire ses deux besoins. Ce cuistre de Concini n'a pas l'hospitalité très large. Un jour, j'espère, je lui rendrai la monnaie de ses procédés délicats. Or ça, puisque je ne peux pas boire et manger, dormons. J'ai toujours entendu dire « qui dort dîne ». Pardieu, l'occasion est bonne de voir si le proverbe est vrai. Le lit n'est pas précisément moelleux, mais bah, il paraît que la paille cette année est hors de prix, puisque ce pauvre Concini ne peut même pas m'offrir une botte sur laquelle étendre mes membres fatigués. Ayant décidé, il s'enroula dans le manteau et s'étendit dans un angle sur les dalles humides. 5 minutes plus tard, il dormait de ce sommeil robuste qu'on a à 20 ans.